Le château des Carpates, de Jules Verne. Cette histoire n'est pas fantastique, elle n'est pas romanesque. Faut-il en conclure qu'elle soit vraie, étant donné son invraisemblance? Ce serait une erreur. Nous sommes d'un temps où tout arrive, on a presque le droit de dire où tout est arrivé. Si notre récit n'est point vraisemblable aujourd'hui, il peut l'être demain, grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l'avenir, et personne ne s'aviserait de le mettre au rang des légendes. D'ailleurs, il ne se crée plus de légendes au déclin de ce pratique et positif XIXe siècle, ni en Bretagne, la contrée des farouches Korrigans, ni en Écosse, la terre des Brownies et des Gnomes, ni en Norvège, la patrie des Ases, des Elfes, des Sylphes et des Valkyries, ni même en Transylvanie, où le cadre des Carpates se prête si naturellement à toutes les évocations psychagogiques. Cependant, il convient de noter que le pays transylvain est encore très attaché aux superstitions des premiers âges. Ces provinces de l'extrême Europe, Monsieur de Gérandeau les a décrites, Élisée Reclus les a visitées. Tous deux n'ont rien dit de la curieuse histoire sur laquelle repose ce roman. En ont-ils eu connaissance? Peut-être. Mais ils n'auront point voulu y ajouter foi. C'est regrettable, car ils l'eussent raconté, l'un avec la précision d'un analyste, l'autre avec cette poésie instinctive dont sont empreintes ces relations de voyage. Puisque ni l'un ni l'autre ne l'ont fait, je vais essayer de le faire pour eux. Le 29 mai de cette année-là, un berger surveillait son troupeau à la lisière d'un plateau verdoyant, au pied du Retiesa, qui domine la vallée fertile, boisée d'arbres à tiges droites, enrichie de belles cultures. Ce plateau élevé, découvert, sans abri, les galernes, qui sont les vents du nord-ouest, le rasent pendant l'hiver, comme avec un rasoir de barbier. On dit alors dans le pays qu'il se fait la barbe, et parfois de très près. Ce berger n'avait rien d'arcadien dans son accoutrement, ni de bucolique dans son attitude. Ce n'était pas Daphnis, Amintas, Tityr, Lycidas ou Mélibée. Le lignon ne murmurait point à ses pieds en sabotés de gros socs de bois. C'était la Sylvalaque, dont les eaux fraîches et pastorales eussent été dignes de couler à travers les méandres du roman de l'Astrée. Fric, fric du village de Verst. Ainsi se nommait ce rustique patour, aussi mal tenu de sa personne que ses bêtes, bon à loger dans cette sordide crapaudière, bâtie à l'entrée du village, où ses moutons et ses porcs vivaient dans une révoltante proacrerie, seul mot emprunté à la vieille langue qui convienne aux pouilleuses bergeries du comitat. L'Imanum Percus paissait donc sous la conduite du dit Fric, Imanior ipse. Couché sur un tertre matelassé d'herbe, il dormait d'un œil veillant de l'autre, sa grosse pipe à la bouche, parfois sifflant ses chiens, lorsque quelques brebis s'éloignaient du pâturage, ou donnant un coup de bouquin que répercutaient les échos multiples de la montagne. Il était 4 heures de l'après-midi, le soleil commençait à décliner. Quelques sommets, dont les bases se noyaient d'une brume flottante, s'éclairaient dans l'est. Vers le sud-ouest, deux brisures de la chaîne laissaient passer un oblique faisceau de rayons comme un jet lumineux qui filtre par une porte entrouverte. Ce système orographique appartenait à la portion la plus sauvage de la Transylvanie, comprise sous la domination du cocomitat de Klausenburg ou Kolozsvár. Curieux fragment de l'Empire d'Autriche, cette Transylvanie, Lederli en magyar, c'est-à-dire le pays des forêts. Elle est limitée par la Hongrie au nord, la Valachie au sud, la Moldavie à l'ouest. Étendue sur 60 000 km², soit 6 millions d'hectares, à peu près le 1/9 de la France, c'est une sorte de Suisse, mais de moitié plus vaste que le domaine helvétique, sans être plus peuplé. Avec ses plateaux livrés à la culture, ses luxuriants pâturages, ses vallées capricieusement dessinées, ses cimes sourcilleuses, la Transylvanie, zébrée par les ramifications d'origine plutonique des Carpates, est sillonnée de nombreux cours d'eau qui vont grossir la Tesse et ce superbe Danube, dont les portes de fer à quelques milles au sud ferment le défilé de la chaîne des Balkans sur la frontière de la Hongrie et de l'Empire ottoman. tel est cet ancien pays des Daces, conquis par Trajan au 1er siècle de l'ère chrétienne. L'indépendance, dont il jouissait sous Jean Zapoli et ses successeurs jusqu'en 1699, prit fin avec Léopold Ier, qu'il annexa à l'Autriche. Mais quelle qu'ait été sa constitution politique, il restait le commun habitat de diverses races qui s'y coudoient sans se fusionner. Les Valaques ou Roumains, les Hongrois, les Tziganes, les Tzéclairs, d'origine moldave, et aussi les Saxons que le temps et les circonstances finiront par magyariser au profit de l'unité transylvaine. À quel type se raccordait le berger Frick? Était-ce un descendant dégénéré des anciens Daces? Il eût été malaisé de se prononcer, sa face mâchurée, sa barbe en broussailles, ses sourcils épais comme deux brosses de crin rougeâtre, ses yeux perses, entre le vert et le bleu, et dont l'armier humide était circoncis de cercles séniles. C'est qu'il est âgé de 65 ans, il y a lieu de croire du moins. Mais il est grand, sec, droit, sous son soyon jaunâtre, moins poilu que sa poitrine. Et un peintre ne dédaignerait pas d'en saisir la silhouette lorsque, coiffé d'un chapeau de sparterie, vrai bouchon de paille, il s'accote sur son bâton à bec de corbin, aussi immobile qu'un roc. Au moment où les rayons pénétraient à travers la brisure de l'ouest, Frick se retourna. Puis, de sa main à demi fermée, il se fit un porte-vue, comme s'il en eût fait un porte-voix pour être entendu au loin, et il regarda très attentivement. Dans l'éclaircie de l'horizon, à un bon mille, mais très amoindri par l'éloignement, se profilaient les formes d'un bourg. Cet antique château occupait sur une croupe isolée du col de Vulcan la partie supérieure d'un plateau appelé le plateau d'Orgal. Sous le jeu d'une éclatante lumière, son relief se détachait crûment avec une netteté que présentent les vues stéréoscopiques. Néanmoins, il fallait que l'œil du patour fût doué d'une grande puissance de vision pour distinguer quelques détails de cette masse lointaine. Soudain, le voilà qui s'écrie en hochant la tête. « vieux bourg, tu as beau te carrer sur ta base, encore 3 ans et tu auras cessé d'exister, puisque ton être n'a plus que 3 branches. » Ce être, planté à l'extrémité de l'un des bastions du bourg, s'appliquait en noir sur le fond du ciel comme une fine découpure de papier. Et c'est à peine s'il eût été visible pour tout autre que Frick à cette distance. Quant à l'explication de ces paroles du berger, qui étaient provoquées par une légende relative au château, elle sera donnée en son temps. « Oui, répéta-t-il, 3 branches. Il y en avait 4 hier, mais la 4e est tombée cette nuit. Il n'en reste que le moignon. Je n'en compte plus que 3 à l'enfourchure. Plus que 3, vieux bourg. Plus que 3.